Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, je suis en compagnie d'Anaïde Termination que nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir. Bonjour Anaïde.
Bonjour Sébastien de Courtois.
Alors vous êtes venu ce matin jusque à notre émission pour évoquer une personnalité historique quelque peu oubliée mais qui a été très importante à la fois pour l'Arménie, on verra dans quel contexte exactement, et aussi je parle d'Antoine Poitbar, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par son nom, et aussi pour sa vie après cette mission d'Arménie, donc qui est à la fin de la Première Guerre mondiale, où on découvre que cette figure héroïque peut-être, a participé à l'invention de l'archéologie aérienne. Voilà. Alors c'est un jésuite d'origine lyonnaise qui est envoyé à la fin de l'Empire ottoman dans certaines missions en Anatolie et qui se retrouve lui-même au cœur de la création de cette nouvelle République d'Arménie.
Voilà. Alors Antoine Padoie, il faut quand même rappeler un peu quelques dates. Il est né en 1878 à Lyon. Il meurt en 1955 à Beyrouth. Bon, c'est-à-dire après les mandats français, en relation avec l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui a conservé absolument toutes ses archives. Et c'est Antoine Poitbar, jeune jésuite engagé pratiquement dès l'âge de 19 ans, dans une Troisième République, dans la France de la Troisième République, très très anticléricale et très anti-jésuite, va s'engager dans ce qu'on appelait la mission d'Arménie, qui avait été créée à la demande du pape Léon XIII par Amédée de Damas. Le mot de Damas ne doit pas nous induire en erreur. Lui aussi est de Saint-Étienne, je dirais de la région lyonnaise. Et cette mission d'Arménie a créé diverses stations catholiques, forcément, entre la Méditerranée et la mer Noire, d'Adana à Samsun. Vous voyez où ça se situe, qui était destiné, il faut bien dire, à l'évangélisation catholique des Arméniens, considérés un peu comme des chrétiens un peu perdus et qu'il fallait ramener au sein de l'Église romaine. Mais comme la plupart de ces jésuites sont des Français, il s'agit aussi, dès le XIXe siècle, d'établir des liens particuliers entre la culture française et les Arméniens auxquels on s'adresse. Alors, ces stations, ce site particulier, on crée une école, on crée une chapelle, on crée éventuellement une infirmerie et une presse pour publier des textes.
Que savons-nous sur ces premières années du père Poitbar ?
Alors, pas grand-chose personnellement. C'est-à-dire que j'ai cherché moi-même dans les archives de Vanves, les archives des jésuites qui sont aujourd'hui à Lyon, des textes personnels dans Poitbar. Mais Poitbar est un homme très pudique, qui ne sait pas raconter. Mais nous savons que pendant les 6 années, il a passé en Anatolie, dans ses diverses stations, en particulier la dernière, c'est à Sivas qu'il se trouve. Sivas qui va jouer un très grand rôle, comme vous savez, dans Sivas, oui, dans le mouvement kémaliste, à partir de 1919, c'est-à-dire un centre, disons, de nationalisme turc très affirmé. Lui, là, au contact des Arméniens, va apprendre l'arménien, le turc, et même, dit-on, le tatar étant la langue par laquelle on désigne généralement les musulmans du Caucase, c'est-à-dire les ancêtres des Azeris, ça c'est un terme utilisé par les Russes, qui se trouvent en Anatolie tout simplement parce qu'ils ont émigré à partir du milieu du XIXe siècle pour échapper au pouvoir d'un tsar chrétien et pour chercher un souverain musulman, c'est-à-dire le sultan. Donc on trouve en Anatolie, disséminé un peu partout, des Caucasiens parlant le tatar. Or, Poitbar, qui a été, comme les jésuites, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objet d'une véritable persécution à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle en France, a fait ce qu'on appelle ses études théologiques proprement dites à Jersey ou en Angleterre. Donc, il sait l'anglais. Et en 1914, lorsqu'il vient en France pour des vacances, l'été 14, pour des vacances simplement, il va être pris par quelque chose de totalement inattendu qui est la guerre. Il avait fait son service militaire, tout jésuite qu'il était, quand il avait 20 ans. Il va s'engager comme aumônier s'engager volontaire comme aumônier dans l'armée française et il va mener dans des conditions héroïques qui vont lui valoir la Croix de guerre entre 14 et 17 sur le front lorrain. Et il sera remarqué par la hiérarchie militaire française. D'ailleurs, il écrit déjà à ce moment-là dans Études. Études qui était et qui reste encore l'expression des jésuites en France. Il est remarqué par le général Weygand, qui le recommande à Foch, le maréchal Foch. Et donc, en décembre 1917, c'est-à-dire quelques semaines après la Révolution russe, où les Allemands vont être bientôt débarrassés du front oriental parce qu'au mois de mars 1918 sera signé le traité de Brest-Litovsk entre la Russie et l'Allemagne. Et donc l'Allemagne se prépare de nouveau à une série d'offensives sur qui vont être suivies pendant fin de l'année 17, début de l'année 18 en France. Et donc à ce moment-là, l'état-major français est à la recherche de nouvelles, non pas solutions, mais de nouvelles possibilités de lancer le conflit à l'Est, maintenant que la Russie s'est dégagée. Et donc Foch va charger ce capitaine Poitbard, il est devenu capitaine à titre provisoire, il va décider de l'envoyer en Orient, très exactement en Perse d'abord, on disait pas l'Iran, on disait Perse à l'époque, pour voir dans quelle mesure d'abord on peut établir des relations à la fois maritimes et continentales avec le Caucase qui est un morceau qui s'est détaché de la Russie après le traité de Brest-Litovsk qui est un peu à la dérive, et d'autre part, ça fait partie de la politique française au Moyen-Orient. Comment s'appuyer sur des minorités chrétiennes pour relancer éventuellement le combat ce front turc?
Il faut rappeler une date, peut-être une date de naissance et une date de mort. Il naît en 1878 et il meurt en 1955. Donc il a eu une très très belle traversée à cheval sur les deux siècles. Nous sommes à la fin de la toute première guerre mondiale.
Presque fin.
Voilà. Et il est envoyé par sa hiérarchie militaire sur ce qui deviendra peut-être le fond du Caucase. Voilà. Donc cette mission d'Arménie.
Exactement. Dites-nous. Alors je vous rappelle quand même deux ou trois vérités élémentaires. Le président du conseil, c'est Clémenceau. Et Clémenceau, le mot d'ordre de Clémenceau, c'est la guerre, toujours la guerre. Hein. Continuer la guerre par tous les moyens, gagner la guerre, gagner la paix par la guerre, par la victoire. D'autre part, je viens de vous citer le maréchal Foch, donc la France cherche, si vous voulez, des petites solutions.
Et elle tombe sur ce savant qui parle déjà les langues et qui est disponible.
Voilà, il sait l'anglais, il sait trois langues rares à l'époque, mais même l'anglais, il y avait très peu d'anglicistes en France. Hein. Pour parler un bon anglais, il fallait souvent avoir une mère américaine, une mère anglaise, etc. Mais c'était pas une langue répandue comme elle l'est aujourd'hui. Donc, Poitbard quitte Paris, janvier 1918, et arrive à Yerevan le 13 décembre 1918, c'est-à-dire qu'il a mis presque un an pour parcourir 13 000 kilomètres à travers la Méditerranée infestée de sous-marins allemands, arriver en Égypte, reprendre les navires pour arriver jusqu'au golfe Persique, remonter par Bassora, Bagdad, jusqu'à Zindjan, Recht, pour essayer là de prendre contact d'abord avec les Anglais. Il y a une expédition d'Unsterville sur laquelle je ne m'étends pas, et les alliés anglais qui sont sur place, et aussi essayer de prendre contact avec ces populations chrétiennes, si je vous dis les Djello, les Assyro-Chaldéens, les Assyriens, les Arméniens, qui sont pris dans une sorte de nasse. Quand on voit la situation de la Syrie aujourd'hui, on peut facilement imaginer quelle était la situation en Perse à la fin de la Première Guerre mondiale. La Perse est neutre. d'un État neutre. C'est une situation absolument épouvantable où les populations chrétiennes qui ont fui la Turquie après le génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens en 1915 se retrouvent prises comme dans un piège qui est un piège entouré de populations musulmanes d'origines diverses. Hein. Il y a pas, c'est pas seulement des Iraniens ou des Kurdes ou des toutes sortes d'autres populations musulmanes. On assiste à de véritables massacres de type zoologique. Hein, ce massacre, franchement. Et Poitbar arrive là-dedans. Il paraît évidemment un peu invraisemblable que la France puisse espérer envoyer au combat ces populations massacrées. N'empêche que c'est sa mission.
Nous sommes en compagnie d'Anaïde Termination ce matin pour évoquer la mission d'Arménie par Antoine Poitbar, donc qui était un jésuite, un savant qui a maîtrisé et qui a appris plusieurs langues et un officier de l'armée, sinon une figure héroïque, comme nous le verrons un peu plus tard. Anaïde, la question que je voudrais vous poser, c'est que nous sommes en 1918 à Yerevan. Quelle est la situation politique actuelle à cette époque, pardon, du pays?
Alors, Yerevan est devenue, par une sorte de hasard de l'histoire, capitale d'une petite république indépendante qui a été créée dans des conditions sur lesquelles je ne reviens pas, le 28 mai 1918. Cette année, la République d'Arménie va fêter son centenaire. Et puisque nous sommes dans une émission qui s'appelle Chrétiens d'Orient, où, depuis 50 ans, nous évoquons, entre autres, les Arméniens, je voudrais rappeler que c'est le seul cas que nous connaissions d'une minorité chrétienne du Proche-Orient, du Moyen Proche-Orient, qui ait réussi dans des conditions absolument invraisemblables et quasi miraculeuses, si ce terme a un sens en histoire politique, de créer un État qui est indépendant théoriquement de 1918 à 1920, qui sera soviétisé en 1920-21, et qui va redevenir indépendant en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, avant même l'effondrement de l'Union soviétique.
En 1918, on était dans la continuité de cet effondrement russe, donc une population qui prend son indépendance.
Qui essaye de prendre, c'est pas tellement la population d'ailleurs qui prend sa, comment dirais-je, son destin en main, ce sont quelques hommes politiques venus, souvent de Géorgie, quelques hommes politiques formés en Occident, hein, que le hasard de la vie et de la guerre a lancé entre Tiflis et Yerevan, qui, dans des conditions, je dirais presque le dos au mur, ont accepté de créer un État avec une population dispersée, encombrée de réfugiés arméniens survivants du génocide, c'est-à-dire essentiellement de ceux qui viennent de la région de Van ou de Mouche. Vous voyez, tout à fait à l'est de l'Anatolie, au milieu d'une guerre fratricide entre les Arméniens et les Géorgiens à l'ouest, et les Arméniens et les Azeris à l'est, parce que créer un État suppose un territoire suppose des frontières, et ces frontières sont extraordinairement difficile à établir dans une région où en plus les Arméniens sont dispersés. Et où la capitale la plus active, c'est pas Yerevan, mais Tiflis.
Revenons à Antoine Poitbar, quel va être le succès de sa mission?
Alors, Poitbar arrive dans une sorte d'enfer. L'hiver, puisque je vous ai dit, il arrive en décembre 18, l'hiver 18-19, c'est l'enfer. Quelques 100 à 200 000 Arméniens meurent, emportés par la famine et le typhus. Bon, le pays est encombré de réfugiés de toutes sortes, et Poitbar, qui n'avait pas une sympathie particulière pour ceux qu'il avait rencontrés en Anatolie, c'est-à-dire les activistes arméniens nationalistes vis-à-vis desquels il avait un certain recul en bon français qu'il était, parce que Poitbar, malgré tout, le fait qu'il est jésuite, est aussi un militaire français convaincu de la défense des intérêts de la France dans cette région, mais la France n'est pratiquement pas représentée. Il y a une mission militaire à Tiflis, mais qui n'a pratiquement pas de moyens. Et les gens les plus présents sur place sont les Anglais, qui vont envoyer, qui vont utiliser sur place, ça c'est peu connu, les musulmans indiens de leur armée. Donc Poitbar arrive dans un pays dévasté, un pays qui n'a pas de frontières.
Seul.
Seul, seul, complètement seul. Il est l'unique Européen qui sera présent en Arménie de l'hiver 18 à pratiquement la chute de la République d'Arménie, c'est-à-dire novembre 1920.
C'est pour ça aussi que sa présence, donc son témoignage, est importante pour l'histoire de cette première République.
Or, sa présence est extraordinaire, elle est considérée comme salvatrice, il est considéré un peu comme un envoyé de Jésus. Enfin, je veux dire, j'exagère à peine les mots. Et il va trouver sur place des gens, je ne vais pas vous citer une série de noms, mais il sera très sensible à un général de l'armée russe, mais qui est arménien, qui est Nazarbekov, ou bien à celui qui deviendra le premier ministre de l'Arménie, Alexandre Radician, qui finira d'ailleurs ses jours en France, qui est un homme extrêmement cultivé, avec lequel Poitbar se sent, si vous direz, d'égal à égal. Tandis que quand il a affaire à des militants sortis du rang, il n'est pas très à l'aise. Mais il va jouer un rôle extrêmement important en guidant, en aidant l'armée arménienne à prendre en main le territoire de Gars. Parce que il faudrait quand même rappeler là un point d'histoire. À la fin de la guerre, au traité de Berlin en 1878, les provinces de Gars, Ardahan et Batoum, que vous connaissez, Batoum, non, mais Gars et Ardahan, ont été cédées à la Russie. Et la province de Gars et Ardahan sont considérées par les patriotes turcs, par les jeunes turcs, l'équivalent de l'Alsace et de la Lorraine pour lesquels se bat Clémenceau en France. Hein, c'est exactement ça. Bon, j'ai fait tout à l'heure allusion à les ententes entre la Russie et l'Allemagne. J'ai parlé du traité de Brest-Litovsk. Au traité de Brest-Litovsk, en principe, ces provinces ont été rendues à la Turquie. Mais les Arméniens ne l'entendent pas de cette oreille-là. Et dans la mesure où Gars n'est pas, non pas une ville arménienne, mais une ville où il y a une grosse communauté arménienne, disons 30% de la ville. Vous savez, vous vous rappelez du roman Neige de
Orhan Pamuk?
Bon, il évoque ça. Il évoque le fantôme des Arméniens à Gars aujourd'hui. Bon, Gars sait. Il y a à Gars une extraordinaire église du 9e siècle.
L'église des saints apôtres.
Oui, qui est là pour attester encore aujourd'hui la présence de ces Arméniens dans le passé.
Et nous ne sommes pas très loin non plus de la ville d'Ani, cette capitale arménienne du millénaire.
Et Poitbar va aider l'armée arménienne en s'appuyant sur des officiers, parce que lui quand même se considère, il est toujours habillé en officier, il n'est pas habillé en jésuite. Hein. Il était en jésuite, il avait la robe, il était habillé en jésuite quand il était en Anatolie. Maintenant, c'est un officier avec des bottes, un officier français. Il accompagne l'armée arménienne pour reprendre, en particulier la ville de Gars, c'est-à-dire annexer cette région de Gars à la République d'Arménie. Ça sera provisoire, mais peu importe, il est là.
Combien de temps reste-t-il après?
Il restera jusqu'à la fin. Il reste pratiquement 2 ans. Enfin, pas tout à fait 2 ans.
Bon, nous avons des comptes rendus, nous avons des lettres de sa présence.
Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aux archives militaires de Vincennes. L'archive militaire, il y a des rapports, il écrit. Il envoie tout le temps des rapports qui passent par la mission militaire française de Tiflis.
Donc c'est très important pour vous en tant qu'historienne, comme source?
Oui, bien sûr, je les ai utilisés. J'avais fait un article qui s'appelait « Antoine Poitbar et l'Arménien » qui a été publié dans mon livre « L'échiquier arménien entre guerre et révolution ». Non, entre 18 et 20, bon, on ne va pas revenir là-dessus, en 1915, aux éditions Cartala, et où j'avais utilisé ces textes et où j'avais constaté que Poitbar est préoccupé par 3 questions. Bon, d'abord, assurer la stabilité de l'Arménie. 2, assurer, mettre fin à la famine et au typhus, parce que le typhus accompagne la famine. Les gens du gouvernement sont emportés par le typhus. La famine est partout, la disette, les orphelins. Bon, résoudre le problème des réfugiés. Un problème aujourd'hui contemporain. Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés? Hein? Quand il y a des réfugiés, combien y a-t-il de réfugiés en Arménie? Alors, ils découvrent qu'il y a 3 types de réfugiés. Il y a les réfugiés arméniens de Turquie, Les réfugiés de Gass, parce que quand l'armée turque a avancé sur le front du Caucase, et au moment où le front russe s'est effondré pendant la révolution bolchevique à partir de, d'octobre 1917, les Arméniens de Gass ont fui. Et il y a aussi maintenant des réfugiés arméniens du Caucase, parce que dans la guerre qui a opposé les Arméniens aux Georgiens, qui oppose constamment les Arméniens aux Azeris, je dirais jusqu'à aujourd'hui, il y a des quantités de réfugiés. Bon. Et ce problème des réfugiés est posé clairement dans les textes, enfin dans les rapports que Poitbar envoie en Arménie. Et là, je voudrais citer un de ses collègues dont j'ai trouvé les lettres absolument remarquables. C'est le consul de France à Trébizonde, l'épicier, qui est là entre 18 et 20. Parce qu'en principe, l'armée turque s'est engagée, après l'armistice de Mudros, à évacuer le Caucase et aussi à évacuer un certain nombre d'endroits.
Que nous dit l'épicier ?
Et l'épicier constate à Trébizonde que quelques Arméniens ont pu revenir dans la ville, qu'on a trouvé, cherché dans des familles des jeunes filles arméniennes qui ont été enlevées en grand nombre, qu'on va essayer de récupérer, mais le constat de l'épicier est terrible. Il dit, mais il est absolument impensable que les réfugiés arméniens puissent entrer à l'intérieur du territoire. Et là, on se heurte, dit-il, à la volonté de la majorité, c'est-à-dire des Turcs musulmans, à défendre leur territoire.
Je voudrais remercier Anaïde Termination pour être venue jusqu'à notre micro ce matin.
Merci Sébastien de Courtois de m'avoir invité et de ne pas de lasser sans arrêt vos auditeurs par ma présence.
Je rappelle le titre de votre livre, vous êtes toujours la bienvenue chère Anaïde, le titre de votre livre « L'échiquier arménien entre guerre et révolution 1878-1920 » Kartala. Nous évoquions la figure du père Poitbar ce matin et de la mission d'Arménie. Je tiens à remercier particulièrement Dany Journeau, Pierre Monteil et Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche à tous. Thank you.